RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, le nombre de malades de Parkinson est estimé à 200 000 en France. 25 000 nouvelles personnes sont touchées chaque année par cette maladie, diagnostiquée en moyenne à l'âge de 58 ans. Cette pathologie figure à la seconde place des maladies neurodégénératives, cause de handicap moteur chez l'adulte, après celle d'Alzheimer. Malgré le développement de la recherche qui s'est accélérée ces 30 dernières années, et la neurostimulation s'inscrit parmi ces progrès qui peuvent transformer totalement la vie d'un malade de Parkinson. Michel Diaz a suivi le parcours d'un patient.
Qu'est-ce que ça a provoqué, la maladie, sur votre vie au quotidien?
Tout est ralenti. Je ne peux plus rien faire parce que j'ai plus la force de le faire. C'est un peu réduit maintenant. C'est dû à l'âge et puis continuité de maladie. La maladie me bouffe.
C'est au printemps de l'année dernière que je rencontre Joël dans son jardin. Il vient de fêter ses 66 ans. Qu'est-ce que vous faites là, Joël?
Je marche pour débloquer le ciboulot.
Parce que vous venez de prendre les médicaments, c'est ça?
Oui, je viens de prendre les médicaments. Ça fait effet, mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes.
Les crises, c'est de plus en plus fréquent, c'est ça?
Oui, c'est de plus en plus fréquent. C'est pour ça qu'il est temps de m'opérer. Parce que sinon, ça va mal tourner.
Ça fait combien de temps que vous êtes malade comme ça?
Depuis 2003. Depuis que l'année où ma femme est partie. C'est un élément déclencheur. Ma femme est partie, puis mon père est décédé.
C'est au CHU d'Amiens que Joël doit être opéré. Et malgré la crainte d'une opération au cerveau, il a hâte. Car son quotidien devient pénible, et notamment pour se déplacer. Qu'on entend là en fond sonore, c'est le gravier, c'est dans votre jardin?
C'est dans ma cour. C'est le gravier parce que je frotte mes jambes, mes pieds par terre pour marcher alors que je devrais pas. Il faut constamment que je fasse ce que je fais parce que sinon c'est la catastrophe. J'ai tombé deux fois là-dedans, une fois j'ai tombé chez le voisin. Je suis tombé dans sa cour et puis obligatoirement j'ai pas pu me rattraper et puis je me suis fait un lumbago. Dans le temps, je n'aurais jamais tombé. J'aurais réussi à me rattraper et puis ça aurait été mieux quand même. Là, on est dans l'herbe, ça marche encore mieux. Je suis obligé de lever le pied.
Au moment où nous parlons, la date de l'intervention n'est pas encore fixée. Sabrina, sa fille, est devenue un soutien indispensable pour son père.
Depuis quelques mois, on est pris en charge par le CHU d'Amiens, qui nous donne bon espoir par rapport à cette opération.
Et Amiens, vous avez l'impression que c'est une région où justement il y a de bons services fiables pour la maladie?
Je pense aussi que le nord de la France est peut-être pas mal touché malheureusement par la maladie de Parkinson, parce que Lille et Amiens sont des établissements assez réputés.
Vous disiez tout à l'heure le fait qu'il y en ait plus à Amiens, enfin dans le nord, pourquoi à votre avis?
Peut-être des régions plus ouvrières où il est dit, alors à vérifier, que les personnes ayant été en contact avec pendant de nombreuses années avec les pesticides ou bien les traitements pour le bois, ou ce qui est le cas de mon papa qui a été menuisier pendant de nombreuses années, il s'avère qu'il y aurait peut-être plus de personnes touchées par cette maladie suite à ces professions.
Pour Joël, cette opération est sa dernière planche de salut. C'est ainsi qu'il m'explique ses difficultés de marche et la future pose de son neurostimulateur relié à une batterie. Cette opération, cette intervention, ça fait longtemps qu'on vous en parle.
Ah oui, ça fait longtemps qu'on en parle. On en parle tous un petit peu, mais... Je sais pas ce qui se dit dans mon dos, mais moi, je sais que ça va me faire beaucoup de bien.
Elle va être où, cette boîte?
Elle est posée sur mes pectoraux, en dessous de la peau. C'est pour ça qu'ils me disent que je suis pas assez gros. C'est pour ça qu'il faut que je me nourrisse bien. Ils m'ont donné un menu, pour ainsi dire, tous les jours, à respecter pour empêcher de maigrir. Parce que si je maigris trop, après ils seront plus. Ils vont être forcés de me mettre sur le bas-ventre
plutôt que sur la poitrine.
Plutôt que sur la poitrine. Et moi je préfère sur la poitrine. Parce que le chirurgien qui m'a opéré, il a à peu près une quarantaine d'années. Et il est tout à fait très sympa. Il a discuté pendant une demi-heure avec nous, avec moi puis ma fille, Sabrina.
Et vous avez plus confiance aussi?
Oui, j'ai plus confiance en lui. Et puis il m'a dit qu'il avait un, ils avaient acheté un robot il y a 6 mois et ça marche un peu comme avec le robot. Mais je pense que ça va bien se passer.
Tout a commencé il y a 2 siècles. C'est en effet en 1817 que la maladie est décrite pour la première fois par celui qui lui donne son nom, James Parkinson. La lenteur du mouvement est un des premiers signes décelables de 9 malades de Parkinson sur 10, ainsi qu'une sensation de raideur associée à des tremblements incontrôlables pour 64% d'entre eux. Pour eux, le geste n'est plus automatique. Il doit être réfléchi, volontaire, et il devient au fil des années une épreuve. Saisir un verre, écrire, lacer ses chaussures ou encore faire un simple demi-tour, progressivement, les malades sont exclus de la société et donc du monde du travail. Au sein du service de neurologie au Centre hospitalier universitaire d'Amiens, il existe une personne essentielle sans qui le quotidien des malades et de leur entourage pourrait devenir un cauchemar. Elle s'appelle Béatrice Schuller. Cette infirmière formée depuis plusieurs années spécifiquement aux besoins des parkinsoniens informe et coordonne les différents rendez-vous indispensables à leur suivi par les médecins, chirurgiens et autres thérapeutes.
Je décris aux patients comment va se passer la procédure pour pouvoir faire déjà le bilan d'opérabilité. Une fois donc que l'intervention est faite, le patient vient en neurologie générale. À la sortie, donc, je prévois de nouveau le bilan à 3 mois qui est fait au niveau du CHU. Ça permet de mettre en évidence des problèmes que parfois ils ne pensent pas pouvoir aborder avec le neurologue parce qu'ils pensent que ce n'est pas en lien avec leur maladie.
Vous avez rencontré quand pour la première fois Joël Hamm ?
Monsieur Hamm, je l'ai vu quand il était venu pour son bilan d'opérabilité en hôpital de jour. C'était en janvier 2017.
Des personnels dédiés pour une prise en charge multiple d'une pathologie complexe très répandue dans la région des Hauts-de-France. Parmi les spécialistes, le professeur de neurologie, Pierre Kriskoviak, en charge du centre expert Parkinson pour l'ex-région Picardie, il est arrivé en 2007. Ce centre a été créé en 2010 à la suite du livre blanc de la maladie Parkinson. C'était à l'époque de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé.
De plus en plus maintenant, très schématiquement, on dit que la plupart des maladies de Parkinson, parce qu'il y a des maladies de Parkinson, en fait il n'y en a pas qu'une seule, mais les maladies de Parkinson en général résultent d'une susceptibilité génétique, c'est-à-dire d'une fragilité de certains gènes, notamment à éliminer les toxiques de l'organisme, et de la rencontre, d'une mauvaise rencontre environnementale, et notamment de certains pesticides ou herbicides. C'est l'hypothèse, ça reste encore une hypothèse qui tient la corde. Donc il est évident qu'on s'est rendu compte, et notamment dans certaines régions rurales comme la Picardie, qu'on avait effectivement une surreprésentation de cette pathologie, notamment dans certaines populations comme les agriculteurs.
La pose d'un neurostimulateur est devenue une intervention assez courante ici au CHU d'Amiens. Une 20aine d'interventions par an est programmée. Après plusieurs mois d'attente, celle de Joël doit se dérouler enfin, le 8 novembre 2017. Son neurochirurgien encore trentenaire, le docteur Michel Lefranc, revient sur cette technique médicale qui n'est pas la même pour tous. Le geste consiste à soulager le réseau des neurones du patient afin d'améliorer ses symptômes.
Ça consiste tout bêtement à descendre une petite électrode qui fait 1,2 mm de diamètre dans une structure qui est très profondément enfouie dans le cerveau à plus de 10 cm de profondeur, qu'on appelle la partie haute du mésencéphale, la jonction entre le diencéphale et le mésencéphale, hein, c'est vraiment la jonction entre le cerveau, hein, qu'on appelle l'encéphale, et puis le tronc cérébral. Et là-dessus, il y a une petite des structures, hein, qu'on appelle les noyaux gris centraux, en particulier une, le noyau subthalamique, qui sert en fait d'ouvrier qui sert à automatiser une partie de vos actes de la journée, la façon dont vous utilisez vos membres. Et bien cette petite structure dysfonctionne et on va aller mettre une électrode dedans, envoyer un courant électrique. En envoyant un électron électrique, on va moduler la fonction, on va changer le fonctionnement de cette structure qui va avoir un effet en cascade et améliorer les symptômes in fine du patient. Alors l'électrode, elle passe dans le cerveau, elle va sous la peau du crâne, puis elle va être reliée à un pacemaker, exactement comme les pacemakers cardiaques qui est mis souvent sous la clavicule, qui va pouvoir permettre, un, de régler les paramètres de l'électrode, l'intensité de stimulation, tous les paramètres qu'on veut utiliser, et puis qui contient également la pile, c'est-à-dire le générateur pour envoyer ce courant électrique.
Joël fait partie des malades éligibles. C'est ce qui lui a permis d'être en bonne place pour la pose d'un stimulateur cérébral dès que la maladie a été décelée. Car si la réussite de cette avancée technique réalisée pour la toute première fois il y a une vingtaine d'années à Grenoble est basée sur des critères très précis, encore faut-il pouvoir recenser tous les cas dans l'Hexagone. Le professeur Kreskoviak.
Si on s'écarte de ces critères de sélection, on peut vite être confronté à des effets indésirables vraiment très embêtants, voire potentiellement graves. Alors comment ces critères de sélection ont-ils évolué en 20 ans? Je dirais que les critères qualitatifs eux-mêmes n'ont pas été spécifiquement modifiés, c'est-à-dire qu'il faut toujours être pas trop âgé, il faut toujours avoir présenté des complications, ce qu'on appelle des complications motrices, c'est-à-dire du yo-yo moteur tout au long de la journée, avec des espèces de mouvements anormaux involontaires de surdosage qu'on appelle la dyskinésie tout au long de la journée à cause effectivement des traitements antiparkinsoniens médicamenteux. Il faut toujours être toujours très sensible à ces traitements antiparkinsoniens médicamenteux, c'est-à-dire que les médicaments doivent continuer à faire de l'effet. Mais ce qui change maintenant, c'est qu'on opère beaucoup plus tôt. Auparavant, en moyenne, on opérait les patients 13, 14 ans après le début d'évolution de leur maladie. Et avec les études les plus récentes, on les opère maintenant 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Mais je dis toujours aux patients, vous savez, vous avez commencé à trembler depuis 6 mois, mais sachez que votre maladie, elle évolue en fait depuis 10, 15 ans. Je veux dire, ça c'est la partie immergée de l'iceberg.
L'intervention, qui aura duré plus de 8 heures, s'est très bien déroulée. Un an après ses premiers rendez-vous à l'hôpital, soit 2 mois après la pose de son neurostimulateur, le patient est accueilli par l'équipe qui l'accompagne des semaines, voire des mois durant. Comme cet interne de 3e année, Alexandre Leclencher.
Alexandre, moi je suis un des internes du service. Je me suis occupé de M. Ham juste après son retour de la chirurgie. Oui. On avait un peu discuté hein, déjà avec une efficacité qui était quand même, que vous aviez évaluée à 80%, quoi, je crois, quelque chose comme ça.
Oui.
Vous avez fait quelques petites misères pour faire quelques petits réglages avant que vous puissiez partir. Puis vous étiez parti à Beauvais, hein, c'est bien ça. Pour la rééducation, c'était bien passé.
Ça doit être quand même assez impressionnant quand on travaille dans ce genre de service.
C'est vrai que, notamment avec l'avènement de la chirurgie dans la maladie de Parkinson, on voit les patients se transformer, on fait parfois des tests justement pour vérifier encore bien sûr l'efficacité à la fois des médicaments, à la fois de la stimulation, et donc on est obligé de mettre les patients à jeun, donc plus de médicaments et plus de neurostimulation, et on voit tout de suite la différence quand on allume la stimulation ou quand on donne le médicament, et surtout quand on fait les deux, qu'on met le médicament et qu'on allume le neurostimulateur. On voit une amélioration, mais qui est souvent spectaculaire, avec parfois des patients qui reviennent à un état presque normal. Après, bon, évidemment, le gros souci avec la maladie de Parkinson, c'est que c'est malheureusement une maladie neurodégénérative qui ne fera que continuer à s'aggraver dans le temps. Donc l'avantage avec la neurostimulation, c'est que ça permet de diminuer quand même toutes les complications motrices et non motrices. Mais après, une fois que c'est bon, c'est parti.
Très bien.
Lors de la pose d'un neurostimulateur, d'autres paramètres sont à surveiller, mais chaque chose en son temps. Un second interne revient avec une boîte dans laquelle se trouve une télécommande.
Moi, c'est Yann Buron. Ouais.
Et là, on fait quoi?
Alors, en fait, on est en train d'essayer de moduler un peu les capacités du stimulateur pour améliorer la marche du patient, notamment les petits épisodes de blocage qui peuvent survenir dans les demi-tours. Et même si ça n'a pas été le cas, hein, fort heureusement, occasionner parfois des chutes. Donc là, en augmentant un peu l'intensité, on espère que ça va s'améliorer. Alors avec la console, en fait, mon collègue, il est en train de consulter les paramètres de stimulation du patient. Et donc, il peut modifier notamment l'amplitude ou quel est le plot qu'on choisit pour la stimulation. Donc d'abord, on choisit le bon plot. Et ensuite, on va plutôt jouer sur l'amplitude pour, on va dire, l'efficacité.
On vole des deux côtés, c'est ça?
Ouais.
Ça fait quoi d'avoir un stimulateur, là?
Ben, je ne sais pas encore. Non, je n'en sens rien du tout, pour l'instant.
On règle un peu, on y va toujours progressivement, parce que parfois, comme c'est des impulsions électriques, les patients peuvent ressentir des sensations de coups d'électricité qui peuvent être très désagréables. Hop, voilà.
Et là, il y a un autre boîtier, là, c'est une télécommande.
Alors, ça sera sa télécommande personnelle. Du coup, Madame Schuller va lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment, du coup, il pourra consulter, par exemple, s'il y a des pannes de batterie, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, ça peut être des situations auxquelles il faut remédier rapidement et puis qu'il faut savoir identifier. Donc ça fait vraiment partie maintenant de la prise en charge des patients.
Madame Schouler, à vous.
On fait la télécommande donc pour l'utiliser. Donc quand vous l'avez, vous attendez un petit peu et vous allez avoir ce sigle là qui est le même que là et donc vous appuyez sur le bouton orange, d'accord ? La télécommande demande une connexion.
Et puis il y a un sujet méconnu mais important, il s'agit de l'alimentation. Jusqu'en décembre dernier, Joël était un homme plutôt musclé, svelte, voire très mince. Mais à la sortie de l'hôpital, il a pris une dizaine de kilos, une conséquence attendue mais à surveiller.
Je suis Delphine Derave, la diététicienne de service de neurologie et neurochirurgie. La prise de poids donc sur la neurostimulation, elle est documentée. On parle de 10 à 15 kilos rapidement pris. Par contre, il y a des sujets de recherche actuellement sur ça. On ne sait pas quelle est la cause.
Par rapport à un patient comme Monsieur M, qui a priori n'a pas cette problématique de prise de poids.
Là, on a supprimé les mouvements de monsieur. Enfin, par l'opération. Donc, s'il n'y a pas d'activité physique ou si les repas sont déséquilibrés, il revient comme n'importe qui pourrait faire du cholestérol et puis ça peut amener à un problème neurocardiovasculaire comme l'AVC, l'infarctus. Dans la maladie de Parkinson, il y a aussi des troubles de la déglutition. Normalement, il y a une orthophoniste, mais ça, il n'y en a pas partout dans tous les hôpitaux parce qu'on n'arrive pas à recruter. Donc par un questionnaire alimentaire, on arrive à dépister un petit peu est-ce que le riz passe, est-ce que la semoule passe, est-ce que monsieur tousse, est-ce qu'il y a des fausses routes. C'est une complication des maladies neurodégénératives en fin de compte. Donc les patients Parkinson sont beaucoup plus à risque. Et s'il y a des troubles de la déglutition, en règle générale, il y a aussi des risques nutritionnels de dénutrition, d'où le bilan préopératoire.
Son premier séjour après l'opération aura duré quelques jours, mais avant de repartir avec une voix difficilement audible suite à l'opération, Joël fait le point avec son référent, le professeur Pierre Kryskowiak.
Nous, du point de vue du neurologue extérieur, c'est un succès, mais bien évidemment, notre point de vue ne vaut rien sans être confronté au point de vue du patient. Donc le gold standard, c'est le patient. Et comme le patient, il me dit qu'il est satisfait à 80%, on peut considérer que c'est un bon résultat.
Donc, monsieur Hamme ?
Et plus de tremblement, mais... Le piétinement, ça s'estompé un peu. Et du coup, ben, je suis content de mon affaire.
Alors la seule chose qu'il ne savait pas, mais ça on le savait déjà, c'est la voix. Et ça, il faudra reprendre la rééducation orthophonique.
Ça a moins de jouer au niveau de la voix. Enfin, j'ai vu un orthophoniste. Je fais comme le kiné qui vient à la maison. Il vient une fois par semaine, mais c'est pas... Alors, c'est quand même une bonne chose.
Il tient également à remercier le chirurgien qui l'a opéré. Un moment d'émotion dans le bureau du docteur Michel Lefranc entre deux interventions.
Mais tous mes amis me disent que j'ai une amélioration.
Vous la percevez aussi ?
Oui. Parce que le tremblement, c'était terrible, ça.
Nous, ce qui nous fait le plus plaisir, entre guillemets, c'est quand le patient s'estime satisfait, c'est-à-dire quand ça va mieux dans la vie de tous les jours. Hein. C'est l'objectif, c'est que ça aille mieux. Donc après, c'est d'anticiper à l'avenir, puisqu'on est sur des choses qui évoluent. Dans un premier temps, on est déjà content de voir que ce qu'on avait envisagé, bah, on est en train de le réaliser. C'est à la fois une satisfaction, et la satisfaction, elle est importante, surtout quand le patient le dit. Hein. L'objectif est de, quel que soit le moment de la maladie, toujours proposer le soin le plus adapté pour s'adapter à leur maladie au fur et à mesure de l'évolution.
Le regard extérieur, celui de ses proches, reste essentiel. Alexandre, 29 ans, côtoie Joël depuis plusieurs années.
Moi, j'ai connu Joël avant l'opération, qui était quand même assez embêté dans son quotidien, qui n'était pas à l'aise pour plein de choses. Et on voyait vraiment l'effet des cachets qui étaient en dents de scie. C'est-à-dire qu'à des moments, il était vraiment à l'aise, et puis ça rechutait très vite, il reprenait un cachet, il fallait un temps de réaction pour que ça refonctionne. Il redevenait normal, et puis ça rechutait rapidement. C'était vraiment en dents de scie. Et puis après l'opération, on voit que tout ça, ça s'est vraiment très bien nivelé. On voit qu'il est beaucoup plus autonome dans ses mouvements, qu'il est beaucoup moins dépendant des cachets. On ressent qu'il le vit beaucoup mieux et qu'il est quand même beaucoup plus autonome dans sa vie de tous les jours, quoi.
Vous le retrouvez un peu comme vous l'avez connu ?
Ouais, quand même. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et on voyait au fil des années sa situation qui se dégradait. Et là, il est reparti comme il y a longtemps, quoi. Il a regagné 10 ans, quoi.
L'été prochain, il s'agira de vérifier une nouvelle fois d'éventuels dysfonctionnements du système nerveux. La maladie de Parkinson, parcours d'un patient. Un reportage de Michel Diaz réalisé par Pauline Leduc.